Bienvenue à bord du 5-7 si vous nous rejoignez. Géopolitique plus qu'européenne aujourd'hui, José-Emmanuel Lamarque, au-delà même de nos frontières.
Oui, géopolitique très étendue ce matin pour l'Union européenne avec Emmanuel Dupuis, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Parce que deux sommets se sont tenus, l'un à l'ouest, l'autre à l'est. Le premier, c'est le G7 et l'autre serait, on peut dire, le G11. Mais dans l'un comme dans l'autre, notre pauvre Europe est soit peu considérée, soit très ignorée. Donc ce fut une semaine assez symbolique. Qu'en pensez-vous, Emmanuel Dupuis ?
Alors, c'est effectivement une semaine assez symbolique du nouveau paradigme stratégique qui voudrait que les lieux décisionnel et changer de localisation.
Enfin, en gros, vous êtes en train de nous dire que l'Europe n'est pas invitée à tout cela parce que tous les centres de pouvoir se sont déplacés.
L'Europe est encore membre du G7. D'ailleurs, le président Donald Trump veut européaniser davantage le G7.
Attendez, on voit bien que l'Europe, pour l'instant, pour les Américains, ça n'existe plus, c'est plus dans leurs intérêts.
C'est évidemment le piège de dire que les Européens doivent suivre la position américaine, alors même que les Américains eux-mêmes se désintéressent des lieux où l'on discute avec les Européens.
Plus une guerre commerciale avec l'Amérique quand même.
Cette guerre commerciale autour de l'augmentation de 25% des taxes sur l'acier et de 10% des taxes sur l'aluminium est la pointe émergée d'un iceberg qui avait commencé à fondre déjà depuis plusieurs mois.
On est tout à fait d'accord.
Souvenons-nous déjà que la première attaque ne concernait pas une guerre commerciale, mais une guerre géopolitique dans le cadre de l'OTAN, dans lequel les Américains avaient dit que les États-Unis ne seraient plus là pour payer la facture.
Ils sont toujours là quand même, parce que si jamais on négocie en dollars, on tombe sur le coup de la loi américaine.
Vous avez raison. On reprend ce que vous évoquiez, José-Emmanuel, le fait qu'au moment où le G7 se réunissait à la Malbaie au Québec, se réunissait à Qingdao, le vrai G8, les 8 de Shanghai.
Donc, c'est-à-dire le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai.
8 pays, l'ensemble des pays de l'Asie centrale, l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Russie, comme membre observateur l'Iran et comme membre partenaire la Turquie. On voit bien que le monde est en train de changer de paradigme temporel qui consiste à dire que plus de 70 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une géographie qui s'impose.
Non mais les Européens n'ont-ils pas intérêt à rejoindre cette Eurasie au lieu de continuer à suivre les États-Unis d'Amérique ?
Certains disent qu'effectivement, l'Europe devrait s'investir dans le voisinage immédiat de l'Union européenne, ce que au 19e siècle on appelait le grand jeu
entre la Russie et l'Angleterre.
Entre la Russie et l'Empire des Indes, et donc la Grande-Bretagne et la Russie, qui considéraient que dans cette partie du monde, ce que le géographe britannique avait appelé le Heartland, le cœur du monde, où se joue l'ensemble des stratégies de conquête territoriale et géopolitique des grands ensembles. Aujourd'hui, ce sont des grands empires, la Russie, la Chine, l'Inde, qui regardent tout dans la même direction, vers nous.
Vers l'Europe.
Et donc c'est effectivement, pour répondre à votre question, assez étonnant que l'Europe ne soit pas plus active, voire plus proactive, parce que au moment où on avait ce sommet de la désunion, on avait un sommet de l'union. Et au-delà de cette cohésion, et on en revient au principe de l'extraterritorialité qui pèse davantage sur les entreprises européennes qu'elles ne pèsent sur les entreprises américaines, il y a cette décision qui est passée un petit peu inaperçue dans les médias européens, qui consiste à dire que pour la première fois, les Russes et les Iraniens vont négocier leur achat en pétrole et en gaz, non plus en dollars, mais en rial et en rouble.
Ce qui veut dire que pour les Européens, il est temps de reprendre les routes de Bakou, de Samarcande et de Douchanbé.
Il convient aussi de prendre en considération le fait que les routes de la soie ne se font pas dans un seul sens, mais qu'au contraire, comme Marco Polo, elles vont dans les deux sens et qu'il y a une découverte de notre part à approfondir d'un monde qu'on connaît peu.
Ou qu'on a oublié.
L'avenir du monde se situe dans une structure émergente qu'on appelle E11, les 11 économies émergentes, qui représentent 50% de la croissance mondiale, 40% de la population mondiale, 40% des réserves de pétrole, 40% des réserves d'uranium, 25% du PIB mondial. Ce dynamisme eurasien, qui est une réalité démographique, une réalité géographique, une réalité économique, devient une réalité géopolitique avec laquelle les Européens mériteraient d'avoir un dialogue stratégique. On ne peut pas séparer l'Europe de l'Asie. C'est pour ça que la dynamique des prochaines années est eurasienne et je crois que les Européens devraient s'en préoccuper, ou en tout cas le prendre en considération.
Car après tout, Hélène, l'Europe ne serait-elle pas la partie occidentale du continent asiatique ?
Merci José-Emmanuel Lamarque pour toutes ces questions et ces analyses. À demain pour le journal des Outre-mer, même heure, même endroit.